Bonjour, je commence parce que c'est la honte, on attendait au-dessus, et on attendait sur la salle du dessus, et voilà, ça fait 10 minutes que j'attends que la conférence de dessus se libère pour prendre la parole, et je viens de me rendre compte que c'était cette salle, donc c'est nul, et donc j'ai pas de quoi passer des slides, tout ça, enfin c'est pas vraiment au point, mais je vais quand même vous parler de mon jeu, enfin de notre jeu, puisque les jeux vidéo c'est des œuvres collectives. Ça n'empêche qu'il y a des auteurs dedans. Donc, Too Dark, c'est super dur de vous en parler sans trailer ou sans teaser ou sans quelque chose. J'espère que ça va arriver. C'est un survival horror. Non, c'est pas un survival horror, en fait. Donc, le survival horror, c'est un genre qui a été créé... il y a 25 ans, par Frédéric Reynal, qui est mon associé, qui a fait Alone in the Dark, donc il y a 25 ans. Et puis, il y a 2-3 ans, on s'est dit qu'on avait envie de refaire des jeux, plutôt en mode indé, parce que ouais, j'ai commencé pour occuper la salle, tout ça. On s'est dit qu'on avait envie de faire des jeux en mode indé, essentiellement parce qu'on pouvait pas les faire en mode triple A, donnez-moi 40 millions d'euros. Mais aussi parce que j'organise les EIGD à Paris et que ça fait 4 ans que j'invite Frédéric à cette manifestation et qu'on regardait tous les petits jeunes qui faisaient des jeux et qu'on se disait que c'était ce qu'on faisait quand on était petit, puisque Alone in the Dark c'était créé par une équipe de 7 personnes. Donc c'était du triple A il y a 25 ans, mais ils étaient que 7. Et aujourd'hui, à 7, tu fais un jeu indé. Donc nous, on voulait faire ça. C'est-à-dire refaire un peu des jeux comme quand on était petit. Donc ça correspond à du jeu indé. Ça, c'est un premier point. Forcément, Frédéric, ça le travaillait un peu de refaire un survival horror ou quelque chose qui se rapproche de ça. Puisque depuis Alone in the Dark, il a vu l'évolution du genre qui s'est quand même largement ouvert entre Alien Isolation et Home. On passe dans beaucoup de genres. Et puis Survival, aujourd'hui, ça a peut-être perdu la notion d'origine, puisqu'il y a des jeux comme Don't Starve, qui sont vraiment des jeux de survie, et dans lesquels il y a beaucoup de crafting, de machin, et qui n'ont rien à voir avec combattre des monstres ou survivre comme c'était dans Alone in the Dark. Et puis, on va faire un survival horror ou quelque chose qui rentre dans la case, mais on ne sait pas trop la case, en fait. Ou du coup, moins la case, elle est tellement grande qu'on ne sait plus trop où se trouver. Mais on a grandi. C'est-à-dire que... là, je vous parle de Fred et de sa démarche, déjà, avant qu'il vienne nous voir, même. Il y a 25 ans, quand il a fait Alone in the Dark, il était célibataire sans enfant. Puis aujourd'hui, il réfléchit, il a 50 ans, il est père de famille. Et quand tu as 25 ans et que tu te dis qu'est-ce qui est la chose la plus importante au monde, c'est ma gueule. Et quand tu as 50 ans et que tu as des gamins, tu te dis c'est mes gamins. Donc forcément, il s'est dit je vais faire un jeu dans lequel il faut sauver la chose la plus importante au monde, c'est des gamins. C'est mes gamins. Donc le jeu, c'est un peu tordu derrière, donc c'est pas vraiment ces gamins qu'il faut sauver, c'est des gamins aujourd'hui. Et effectivement, on arrive à un jeu où on a une série de serial killers donc qui ont kidnappé des gamins, et il va falloir aller les sauver, donc rentrer dans l'antre des serial killers et aller sauver ces enfants en usant principalement de mécaniques d'infiltration. Donc c'est... on a pris double peine là-dessus. C'est-à-dire que rentrer dans un... Ah, tu veux ma clé USB, peut-être. Ouais. Rentrer dans un repère de serial killer quand vous êtes tout seul pour aller chercher le serial killer et trouver où sont enfermés les gamins, jusque-là, ça ressemble à peu près à n'importe quel jeu d'infiltration. Par contre, ressortir 10 gamins, braillards, indisciplinés gamins, de cette affaire, c'est beaucoup moins compliqué. Beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, effectivement, les gamins, ils sont pas... C'est pas des objets que vous traînez derrière vous, c'est bien des gamins. Donc ils ont peur. Donc dès qu'il y a quelque chose qui leur font peur, ils partent. Voilà. Et donc il y a pas un management gamin, mais très clairement, il faut faire attention à eux. Et effectivement, ça complexifie largement le gameplay et largement la sortie du niveau, puisque le but du jeu, c'est bien de sauver des gamins. Ça, je vais vous le dire 10 fois. un peu un matraquage qu'on fait, puisque de l'autre côté, ce qu'on a comme image de marque, c'est des serial killers avec des gamins. Donc c'est vrai que mal interprété, il y avait une conf ici hier sur Mélenchon qui disait des conneries. Quand il va voir notre jeu, j'ai peur qu'il en dise beaucoup aussi. Effectivement, on insiste beaucoup sur le fait que nous, notre héros, c'est un gentil. Enfin, il tue des gens quand même. Non, c'est pas vraiment un gentil. Mais en tout cas, il veut sauver les mômes. Et c'est bien l'objectif du jeu, quoi. Donc je vais peut-être commencer par le début, c'est-à-dire vous montrer un petit trailer. Ouais, trailer, quoi. Attendez, ça se lance. Et je vais donc vous chanter la chanson. Le chute de la fin, il est assez important, en fait. On a enlevé survival, en fait, dans la définition du jeu. Parce qu'en fait, c'est plus à vous de survivre. En fait, c'est pas... Le but du jeu, c'est donc pas au héros de survivre, c'est bien de sauver des gens. Donc survival, c'est à côté. Aurore, on l'a gardé, puis on a rajouté stealth, puisqu'en fait, c'est vraiment un jeu d'infiltration. Comme dans Alone in the Dark, vous avez des balles, vous avez un gun, mais des balles, vous en avez deux. Et si vous tirez bêtement là où il faut pas, ben vous en aurez plus et vous allez mourir. Donc clairement, c'est pas un jeu qu'on va passer bourrin avec plein de balles et tuer tout le monde. C'est un jeu où il va falloir attendre. Ça, c'est assez compliqué en fait de vous dire que votre joueur, vous allez le mettre dans l'ombre et qu'il va passer un petit quart d'heure là à attendre. C'est pas trop un jeu d'action et puis en plus, il va falloir l'intéresser et continuer à ce qu'il soit motivé pour attendre. Donc motivé, ça veut dire déjà qu'il évite des écueils, mais aussi qu'il apprenne des choses et que l'histoire elle avance pendant qu'il est caché dans le noir. Donc il y a pas mal de défis derrière quand même. Ouais, je vais lancer mon PowerPoint. Alors mon PowerPoint, c'est donc ce que je devais vous raconter depuis le début. Là, je brode depuis un petit quart d'heure. Et c'est un peu chiant parce que ça parle de technique. Mais en fait, c'est d'abord un, je peux pas vraiment vous raconter l'histoire du jeu parce qu'on a décidé de ne pas spoiler les jeux, donc je ne vais pas vous raconter qui sont ces serial killers, qu'est-ce qui se passe à Gloomywood et pourquoi ils enlèvent des enfants. Donc je vais vous parler bêtement de comment on l'a fait, ce jeu. Enfin, à part ce que je vous ai raconté en termes de genèse créative, en fait, il y a un autre truc qui est super important pour nous, c'est comment on l'a présenté. Et de ce qu'on a voulu faire, comment effectivement on est arrivé au jeu d'aujourd'hui. Donc c'est une conférence que je fais généralement dans des plus auprès de techniciens ou souvent dans des conférences avec d'autres gens qui font des jeux vidéo. Mais ça commence quand même par l'histoire de notre studio, donc la rencontre de Frédéric, game designer, créateur de Alone in the Dark, et de moi-même. Donc on est tout aussi vieux l'un que l'autre, et il a fait des jeux il y a 25 ans, j'ai fait des jeux il y a 25 ans. Donc Alone in the Dark, Little Big Adventure pour Frédéric, Ranks, Les Passagers du Vent et d'autres pour moi. Et c'est vrai qu'il faut qu'à ce moment-là, je vous avoue quand même, on n'était pas seul. On avait nos compagnes avec qui on a fait la boîte qui s'appelle Gloomywood. Donc c'est marrant parce que notre studio, il s'appelle comme la ville pourrie où le jeu se passe. C'est parce qu'on doit être tout pourri. Hein. Et on a fait ça l'année dernière. Donc on avait des envies, comme je vous ai dit, Frédéric, de faire un espèce de, enfin, un nouveau survival horror, enfin son deuxième après Alone in the Dark. Donc petit défi quand même un peu sympathique. Le garçon, je pense que tout le monde l'attend un peu au tournant, notamment la presse. Moi, c'est vachement plus light. Je voulais juste faire des jeux punk, comme quand j'étais petit, parce que je fais du casual depuis 15 ans. C'est over chiant. Et puis maintenant, bah, je suis un peu en fin de carrière. Et j'avais envie de m'amuser comme quand j'étais gamin. Donc, on avait des vraies envies. Et je pense que ça, c'est un peu ridicule de le dire dans un festival indé ou un truc effectivement comme ici où il y a beaucoup plus de création, mais l'autre côté par rapport à l'industrie du jeu vidéo, leur dire que nous on avait des envies et qu'on a respecté nos envies et que c'est nos envies qui ont fait qu'on fait un truc bien, en fait c'est pas si évident que ça quoi. On écoute pas si, enfin hier je disais des méchancetés à Alain Damasio en lui disant mais Alain rappelle-toi il y a des auteurs dans le jeu vidéo et je parlais tellement de Frédéric de moi. Il y en a d'autres, il y a des Eric Chahi, il y a plein de gens qui sont encore auteurs aujourd'hui, mais en fait, ce que disait Alain, c'est vrai aussi, c'est la plupart des jeux aujourd'hui, c'est quand même du triple A hyper formaté, et dans l'équipe de création, ils sont 25, et on peut pas dire que c'est du jeu d'auteur, clairement. Mais enfin, pas le nôtre. Donc on avait des vraies envies, et puis on s'est accroché à nos envies, donc Fred, il voulait faire survival horror, rétro gameplay, ça veut dire truc bien dur pour costaud. Et avec un look original, puisqu'en fait, tout ce qu'il a fait, aussi bien sur Elon ou sur LBA, c'était un truc qui déchirait un peu la trame cosmique et inventait vraiment une nouvelle sorte de visualisation. Moi, de mon côté, ben, j'avais vraiment envie de revenir à un jeu beaucoup plus adulte, avec des sujets beaucoup plus adultes, basé beaucoup plus sur des storytelling et puis mon horrible obsession sur la bande dessinée. L'embêtant, c'est qu'on était fauchés, qu'il fallait qu'on soit différent, parce que quand on s'appelle Frédéric Rénal, Thierry Platon, ben, y a intérêt quand même à déboîter, sinon bah, on prend sa retraite. Mais on croyait un super truc, le Geek Factor. Alors le Geek Factor, dans notre tête, c'est on essaye de faire un bon jeu, mais en plus on essaie de donner un petit, enfin ce qui nous éclate, et pourquoi on est venu dans le jeu vidéo à la place de faire de la bande dessinée ou quoi que ce soit, c'est quand même qu'il y a un ordinateur. Et que l'ordinateur, on peut le programmer. Et que nous, on aime bien mettre des doigts dans le fer à souder, etc., etc. Et c'est quand même basiquement ce qui nous a attiré sur ce truc-là, il y a 25 ans. Et qu'on pense que les autres en face, vous, ben, vous aimez bien ça aussi. Et que quand nous, on le fait, ben, ça vous fait kiffer. C'est une théorie, hein. Donc, on est parti sur notre Geek Factor en essayant d'inventer un nouveau style, un nouveau genre, un nouveau truc pour, on va dire, attirer les geeks avec des arguments qui sont pas vraiment des arguments mass market. Bon, là, il y a une petite slide pourrie qui dit qu'on a eu des sous. Ulule, des investisseurs, le CNC, on a gagné des sous. C'est pas si simple qu'une seule simple slide. Et je reviens donc à Too Dark, que je vais décrire aujourd'hui, mais je ne vais pas tant vous en parler que ça, parce que, comme je vous dis, pas trop envie de spoiler. Je dirais simplement, on a essayé de créer vraiment une histoire originale, et puis on ne va pas vous la raconter avant que le jeu sorte. Voilà. Mais donc, on avait notre wishlist, et notre wishlist, rapidement, elle aboutit à un projet. Donc, où il y a un pitch super rapide et illisible, parce qu'il est en anglais. Globalement, faut sauver les enfants des griffes de serial killer. Et pour une fois, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un survival horror égoïste, mais au contraire un jeu d'horreur altruiste. Enfin, en tout cas, spécial gamin. C'est le deuxième jeu de Fred. De survival horror de Frédéric. Et il a vraiment envie de revenir à des aux racines du genre, et les racines du genre, puisque c'est lui qui l'a créé, c'est vraiment effectivement plus de la tension psychologique créée par des mécanismes qui finissent par vous foutre les foies parce que vous n'osez plus avancer, plutôt qu'effectivement par des jumpscares, c'est-à-dire des gros monstres qui sautent à tout coin de rue et qui finalement vous font peur pendant 10 secondes, mais 10 secondes après, vous avez plus peur parce que ah, c'était même pas un vrai monstre. Alors que en tension psychologique, en fait, on va rien vous montrer. On va peut-être vous suggérer plein de choses. Enfin, je vais en parler peut-être après. Comment, quel mécanisme on peut employer effectivement pour vous foutre la frousse. Mais en tout cas, c'est pas spécialement des trucs qui vous sautent à la gueule pendant 5 minutes parce que ça, ça marche pas sur la longueur, quoi. Et en fait, un mécanisme un peu, enfin, un gameplay un peu unique qui combinait plein de choses, l'aventure, l'action, l'infiltration, etc. Donc, on avait défini notre projet. Mais une fois qu'on avait défini le projet, on savait pas trop où on allait. Et notamment, le problème, c'était l'ADA. Donc, Fred, rétro look. Donc, on a essayé des petits dessins. Moi, c'était plutôt, on fait de la bande dessinée. Et au final, on s'est surtout rappelé que finalement, le pixel, les jeux en pixel, c'était pas cher à faire et ça correspondait plutôt à ce que j'avais marqué tout à l'heure. On est fauché, quoi. Donc, on va faire du pixel art. De toute façon, ça nous correspond bien. C'est des trucs qu'on aime parce qu'on est né avec. Et avançons. Donc, on avait un super... marche plus, là. Hop. Un super sprite. Il est bien joli. Sauf que... il nous allait pas trop parce qu'il y avait plein de trucs qui faisaient pas le sprite. D'abord, on voulait qu'il joue avec les lumières, c'est-à-dire que quand il est dans l'ombre, il passe dans l'ombre, quand il est dans la journée, dans la lumière, on le voit plus, etc. On voulait qu'il ait vraiment un look moderne, voire un peu du jamais vu, si possible. Et puis, surtout, on en avait marre de faire des planches de sprite comme quand on était petit, c'est-à-dire 4 positions pour le mec, et puis il peut bouger que dans 4 positions. Enfin... On n'aurait jamais fait 4 positions, on en aurait fait 8 au moins, mais même, c'est 8 pour la marche, 8 pour la course, 8 pour jump, enfin c'est juste horrible quand même les sprite sheets. Donc on ne voulait pas en faire, enfin on a donné déjà. Donc ce qu'on voulait en fait, c'était un jeu en pixel, mais avec tous les avantages de la 3D. Quand je vous parle de prendre la lumière, projeter des ombres, etc., ça c'est de la 3D. Et pourtant on voulait notre look en 2D, donc on était un peu emmerdés. Mais à ce moment-là, Frédéric jouait sur un petit logiciel qui s'appelle Magica Voxel, qui est un logiciel open source, qui est un jeu d'ailleurs, open source, gratuit, qui à base de voxels. Les voxels. Les voxels, c'est comme un pixel, sauf que au lieu d'être dans un plan 2D, c'est dans un plan 3D. Donc vous imaginez un pixel en 2D. Donc on peut en avoir des tout petits, de la taille d'un point, et puis en avoir des plus gros. Alors non, ce n'est pas Minecraft. Minecraft, ce n'est pas des vrais voxels, parce que quand les bonhommes ils bougent, les cubes ils rentrent les uns dans les autres. Alors qu'un vrai voxel, en fait, c'est une entité comme un pixel, donc ça ne peut pas rentrer dans le pixel d'à côté, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc nous, on travaille vraiment avec des voxels, c'est-à-dire qu'on empile des cubes les uns par-dessus les autres. Et c'est vrai qu'on travaille avec des gros voxels, mais il y a plein de jeux qui ont été faits avec des tout petits voxels. Et de Magica Voxel, il nous a pondu un outil, parce qu'il est programmeur, mon camarade, un outil qui nous permet de faire des voxels, mais surtout de faire, encadré dans le petit truc rouge, le rendu du personnage en pixels. Donc en fait, on a vraiment un personnage en 3D, mais chaque frame est rendu... j'ai l'impression de parler un peu trop technique, j'essaie de trouver des termes. Comment vous dire, c'est un... en fait, on aplatit l'image... Et on incorpore les lumières qui sont projetées sur l'image. Et en fait, on fait une image 2D à partir du truc 3D. Et on le fait en temps réel, tout le temps. Et dès que le personnage y bouge, on refait un rendu. Donc ça donne quelque chose comme ça. Là, j'ai une petite capture d'écran, normalement. Voilà, donc ça, c'est une capture de notre outil de travail. Et vous voyez, au centre, le personnage avec les cubes. Et sur la droite, sont rendus en pixel, qui devient vraiment un sprite. Sauf que le sprite, comme vous venez de le voir, en fait, il bouge dans tous les sens, il prend la lumière, son ombre, elle bouge. Donc, on avait ce qu'on voulait. C'est-à-dire, on avait un personnage en 2D qui arrive à prendre la lumière, qui arrive à bouger avec la lumière, et surtout qui a une infinité de mouvements, puisque vous allez le voir, quand on l'anime et qu'il fait des mouvements, et en fait, le sprite, lui aussi, il bouge. Et que tout ça, ça fait un truc super fluide, et donc un personnage qui est super fluide, un truc qui n'a jamais été vu en 2D, très clairement, mis à part les ombres, etc., etc., ça fait surtout quelque chose qui bouge très très vite. Non, ça c'est celle suivante. Ouais, ça c'est rapidement, pour en remettre une couche, je vous ai dit, c'est une conf que je fais souvent dans des trucs techniques, donc en fait c'est pour en mettre une couche sur ce super outil qu'on a programmé nous-mêmes, puisque effectivement nous ne travaillons pas avec Unity, mais avec un moteur perso, avec des techniques perso, et surtout avec des outils perso, c'est-à-dire à la maison, à part Photoshop, il n'y a rien que vous avez déjà vu, quoi. Et In the Future, on compte encore développer ce Voxel Editor pour faire un système d'animation Voxel. Parce que pour l'instant, en fait, à chaque fois qu'il y a une animation, et là, il y a un exemple de Smith en train de marcher. Smith, c'est notre héros, parce qu'on n'avait pas trop d'imagination le jour où on a trouvé son nom. Donc, vous avez une petite animation tout en haut. Et ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'en fait, sur chaque frame d'animation, on prend la frame, on la charge, on fait le rendu pixel. Deuxième frame, on recharge une autre frame, on refait un rendu pixel. C'est très, 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 très lourd. En fait, chaque frame d'animation est un modèle et on charge le modèle à chaque fois. Donc, vous imaginez, effectivement, j'ai demandé à Florent qu'il me passe sa bécane perso parce qu'il nous faut un truc avec une grosse carte. Donc, on est en train d'optimiser tout ça. Je vous passe les espèces de modèles de déformation, tout ça, et je vous amuse juste en vous montrant à quoi ça peut ressembler quand c'est déformé. Et c'est très rigolo les voxels à déformer parce qu'en fait, en temps réel, en fait, je vais vous prendre un bon exemple. C'est un personnage dans lequel un obus passerait. Et pour faire passer un obus dans un personnage en polygone, en fait, en temps réel, j'entends, il faut redessiner tous les polygones du trou et lui faire un trou à travers le ventre. Il faut vraiment redessiner un trou. Et ça, ça prend du temps et c'est un peu compliqué parce qu'il faut reposer des polygones, etc., etc. En voxel, il suffit d'enlever des voxels et vous avez un trou. Donc en fait, en termes d'effet temps réel, en réalité, le voxel est vachement plus balèze que le polygone. Donc nous, on s'amuse pas mal sur des effets temps réel. Je vais vous montrer d'autres exemples derrière. Ah oui. Donc ça, c'est la suite. C'est, on avait les persos, vous avez vu, c'est rigolo. On a trouvé un moyen de faire un truc un peu original. Mais il y a les backgrounds aussi. Alors, pour plein de raisons, on voulait des backgrounds à la Zelda. Parce qu'on fait un jeu d'infiltration et qu'on a, contrairement à plein d'autres jeux d'infiltration, on n'a pas envie que les gens se perdent. On a envie qu'ils sachent parfaitement où ils sont. Et en fait, s'ils sont perdus ou s'ils sont dans le noir, que ça soit complètement conscient. Donc pour ça, quoi de mieux que ces plans à la Zelda, où il est impossible de se perdre. Le nord, il est en haut, le sud, c'est en bas, je vois tout, c'est en 2D5, c'est super clair. Donc, on voulait quelque chose comme ça. De l'autre côté, on voulait quand même aussi un truc qui allait avec nos sprites, parce qu'on s'était quand même emmerdé à faire un super système. Et en plus, on voulait quelque chose qui allait jouer avec la lumière de la même manière. Donc, on a fait super simple. On a combiné des techniques hyper old school, c'est-à-dire le système de tiles, c'est des blocs avec lesquels on construit les décors, avec des technologies modernes qu'on utilise généralement en 3D, à savoir des light map et des dark bumps, donc c'est les deux images là, rose et bleu que vous voyez. Et en fait, c'est des fichiers qui sont généralement associés à des images 3D, enfin des modèles 3D pour leur donner plus de relief ou plus d'impression de relief. Nous, ce qu'on voulait, c'est donner de l'impression de relief dans de la 2D, donc on s'est dit, ben, on utilise ces trucs-là. Ce qui donne, je recommence, donc là un petit exemple, ça c'est la tile map, c'est-à-dire des petits bouts avec lesquels on va construire toute une forêt, donc en fait pour construire toute la forêt on a juste quelques petits bouts d'arbres, à côté de ça on a effectivement la normal maps, donc ça la normale c'est le truc qui va vous permettre d'orienter la lumière, c'est quand on va balancer une lumière qui vient de la droite ou de la gauche, c'est la normal map qui va dire ben, éclaire plus ce côté de l'arbre ou l'autre côté de l'arbre. C'est pour ça qu'ils sont bêtement divisés en deux la plupart du temps et vous avez des gros cônes de lumière. Par contre, les dark bumps, c'est un truc qui vous donne plus une sens. Enfin, c'est complètement fake, les dark bumps. Et c'est vraiment un truc qui vous donne des impressions de relief et de texture alors qu'il n'y en a pas. Donc, on associe ces trois trucs. Pour revenir. Ouais, j'ai mis un petit logo Photoshop, juste pour. Je vous ai dit que Photoshop, c'était le seul outil qu'on utilisait en interne. Parce qu'en fait, ces trois trucs, ils sont faits complètement à la mano par nos artistes. Et donc, ok, les arbres, je les ai dessinés, mais alors les normales et les dark bumps, il faut qu'ils les imaginent. et qu'ils essaient d'imaginer l'effet que ça va faire. Et pour l'instant, c'est comme on est les seuls à utiliser cette techno, ils ont expérimenté pendant des mois et ça a mis un peu de temps. Ça, c'est juste une slide pour vous dire qu'on utilise un autre outil qu'on n'a pas fait. Il y en a deux, donc avec Photoshop, c'est Tiled, qui en fait nous permet, à partir de nos Tile Maps, donc c'est nos espèces d'ensemble d'objets, ici c'est des arbres, de monter l'ensemble de la map, et ici c'est une forêt, donc c'est au centre. Et une fois qu'on a monté ça, en fait, on a un autre outil qui est à nous, qui nous permet enfin de voir ce que ça donne. Ouais, j'ai raté une slide, excusez-moi. Voilà, on a enfin un autre outil, qui est un Map Viewer, et qui enfin permet de regarder ce qu'on a fait entre ces trois maps, c'est-à-dire la Tiles, plus la Normale, plus la Dark Bump. C'est-à-dire, tant que les artistes ils n'arrivent pas à additionner les trois et à utiliser cet outil, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Enfin, ils n'arrivent pas à avoir un retour. Donc forcément, ils prennent beaucoup, beaucoup de temps. Ça, vous en foutez, c'est à propos de notre moteur de jeu, qui est en fait un moteur de jeu open source qu'on a fait évoluer. Et là, ça vous raconte une triste histoire. C'est-à-dire que ben voilà, Frédéric, il avait imaginé ces deux techs. C'est-à-dire d'un côté, tiens, je veux des personnages en 3D qui en fait sont pas en 2D, en 3D, mais sont en 2D. Et puis je voudrais aussi sur les décors, des FX, etc., etc. Mais en fait, ça, c'est des technos personnes à mélanger. Donc, OK, ben, on y arrive, mais maintenant, il va falloir les mélanger ensemble et faire un jeu. Donc, en fait, notre objectif, c'était de faire pénétrer Monsieur Smith dans la forêt. Donc ça a été un peu compliqué. Ça a été surtout 3 ou 4 mois de R&D où, en fait, on a des ingénieurs qui ont cherché ça à base de shaders, de machins, etc., etc. Ça a donné quelques glitches assez monstrueux et quelques belles, belles frayeurs parce qu'on ne savait pas vraiment où en aller. En fait, pour tout vous dire, toute cette techno, en fait, c'était dans la tête de mon petit camarade, Frédéric, qui me l'a raconté tous les matins. Et moi, je bitais rien à ce qu'il me disait. Enfin, j'étais en fait super confiant en lui. Mais honnêtement, c'était genre, j'ai une vision, je te la raconte, mais moi, je n'ai pas du tout la tienne, quoi. Et ça a duré quand même 6 mois, comme ça, enfin, 3-4 mois, où il a fait travailler l'équipe de R&D, etc., etc. Et on ne savait pas vraiment si ça allait marcher ou si ça allait pas marcher, si on allait arriver à notre truc ou non. Donc c'était un peu flippant en fait. Et puis, après 3-4 points, bah, ça a marché. On a eu enfin ça, c'est-à-dire le petit Monsieur Smith qui marchait dans la forêt et ces deux FX qu'on avait enfin réunis, c'est-à-dire un bonhomme super fluide qui arrive à se balader et puis des effets 3D dans de la 2D et au final un look relativement unique. Donc je vous en mets une petite couche supplémentaire. Ça c'est en fait tout à l'heure rapidement je vous ai dit que pour le financement on était passé par Ulule, donc Ulule égale communauté, et cette communauté ben elle a eu il y a déjà 6 mois la version qui est en démonstration là-bas, qui est en fait cette version améliorée, enfin ce jeu, enfin waouh, ce niveau en version améliorée, ce que vous avez là-bas. Et donc ça, on l'a donc révélé en juin à la communauté Ulule. Et c'est notre première démo technique, et c'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Mais on a avancé depuis 6 mois, forcément, et on a d'autres niveaux, on a fait plein d'autres choses, et honnêtement, on n'a pas envie de vous montrer vraiment autre chose. Toujours pareil, pour ne pas spoiler le jeu, donc même cette démo, je vous invite à l'essayer si ça vous intéresse, parce que ce que je montre là, c'est... déjà, ça vous spoil un peu la solution, donc je vais arrêter, parce que sinon, vous n'allez pas essayer. et je pense qu'on n'en a pas... Enfin, on n'a pas fini de le démontrer. Bref, ça, c'est un peu la conclusion de ce talk qui était, je vous le dis une fois de plus, un peu... destiné aux programmeurs, aux créatifs, enfin aux créateurs de jeux vidéo. Donc, ce qu'on a eu comme comme énorme avantage, c'est qu'au départ, on savait très très bien ce qu'on voulait et on avait défini très très bien nos besoins. Donc, on voulait surtout jouer avec la light, parce que les lumières, parce qu'on voulait faire un jeu d'infiltration, un jeu qui se passe entre le noir, la lumière, où les ennemis vous attaquent la nuit, vous attaquent pas pendant la journée, ou au contraire, vous attaquent pendant la nuit, pas pendant la journée, etc. On voulait quelque chose quand même qui soit un peu mieux que ce qu'on faisait il y a 25 ans. En termes de sprite, de bonhomme, on a quand même des super bécanes, des super outils aujourd'hui, donc on voulait quand même avoir un truc différent. Mais effectivement, comme dit la dernière phrase, on n'avait pas trop de sous. Donc ce qu'on a fait, on a pris des choses qui existaient déjà, des choses en open source, comme MonkeyX, enfin ça c'est le moteur dont je vous ai pas trop parlé, ou Tile, l'éditeur, ou Magica Voxel, l'éditeur de Voxel. On l'a amélioré en rajoutant des choses qu'il nous fallait, le rendu en pixels, les fonctions 3D, les shaders pour que les deux marchent ensemble, etc., etc. Bref, on a été créatif avec de la technologie. Et ça, c'est un truc que j'aime bien dire dans les comptes de programmeurs, c'est finalement, nous, notre directeur artistique, c'est un programmeur. C'est Frédéric Rénal, en fait. C'est pas vrai parce que on a une directrice artistique qui a fait vraiment le look des bonhommes avec une grosse tête, etc., etc. Mais au final, le vrai look qu'on a et le truc qu'on retiendra de ce jeu, c'est-à-dire ces trucs super fluides en pixels, basés sur rendu de voxel avec des dark bumps, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment un programmeur qui l'a imaginé. Et quand il nous l'a raconté la première fois, honnêtement, on comprenait rien du tout à ce qu'il nous racontait, quoi. C'est-à-dire, on l'a laissé faire pendant 6 mois quand même pour arriver à une techno qui est complètement originale. Et ça, c'était la fin de ma conf. C'était quand même un super gros risque pour un studio, parce qu'on n'est pas Rothschild, donc on n'avait pas beaucoup d'argent. Et se dire, on va faire 6 mois de R&D sur de la prog, alors que tous nos petits copains, ils prennent Unity, et puis ça y est, c'est fait. C'est un vrai coup. Et ce vrai coup, c'était pas tous les jours, quoi. Mon associé qui s'occupe des finances, qui est tout au fond là-bas derrière, en fait, elle n'était pas tous les jours tous les jours contente quand on lui disait non, il y a 15 jours de plus ou machin, il va devoir faire ci, etc., etc. Donc ça a été un vrai risque. Et de l'autre côté, c'est aussi quel avantage énorme, c'est qu'aujourd'hui, quand vous pitchez un jeu comme ça à un éditeur ou quand vous le montrez à des joueurs, clairement, mais nous, ça a été d'abord montrer notre jeu à des professionnels, on a tout de suite l'attention des gens, parce que effectivement, ce qu'on montre, c'est un truc qui est unique. Et au niveau du look, après, on a d'autres particularités et d'autres unicités au niveau du gameplay, le fait de sauver des enfants, le fait que ça soit dans un monde de serial killers qui peuvent tuer des enfants, et que vous-même, vous puissiez tirer une balle dans la tête du gamin s'il vous gonfle. Il y a quand même un certain nombre de partis pris qui font que derrière, on a d'autres choses à dire à un éditeur. Mais déjà, le premier regard qu'il jette dessus, c'est quoi cet extraterrestre, honnêtement. Et ça, c'est une super force, honnêtement. Moi, j'ai pitché ce jeu depuis 1 an et demi à tous les éditeurs de la planète. Il y en a qui n'ont pas adoré. Quand j'ai montré à Nintendo, ils m'ont dit non, attends, les serial killers, on a déjà fait, mais gamins, on ne voudra jamais. Par contre, waouh, c'est beau. Et juste entendre ça de Nintendo, c'est waouh, j'ai gagné. Donc, c'est vraiment un argument fort pour nous aujourd'hui sur notre jeu. Bon, là, c'est un blabla. Hop, ça, c'était nous en train de tourner. Ça, c'était juste la conf. J'ai pas fini. Attends, je peux blablater encore. De quoi ? Qu'est-ce que j'aurais envie de rajouter de sympa ? Que c'était peut-être sur ma dernière slide, mais en tout cas, on a un site web qui s'appelle toodark.cc. CC, c'est les îles Caïmans. C'est les îles Coco, pardon. Que là-dessus, on dévoile notre. Enfin, on vous tient au courant du développement du jeu, tout ça, mais par exemple, si l'éditeur de Voxel, ça vous intéresse, ou s'il y a des techs qui vous intéressent vraiment, nous, on est plutôt partageurs, donc vous pouvez venir voir. Et puis voilà, si vous avez des questions, parce que Florent me dit qu'on a commencé tard et qu'il faut poser des questions, donc posez des questions. Vous avez des questions ?
Oui, bonsoir. Juste sur le thème du survival horror, il y a un jeu français qui est sorti qui s'appelle White Knight et il est assez sympa. J'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez et si Frédéric avait des commentaires dessus.
On n'a pas fait de commentaires, ils sont venus nous voir. Enfin, même pire que ça, c'est, je pense que pendant la création du jeu, ils ont demandé à Fred de faire une intervention. Donc Fred a fait un peu de consulting sur... Je sais pas, j'étais pas là. Ce que je sais, c'est que derrière, à la sortie du jeu, ils sont venus nous voir pour nous demander si on pouvait, s'ils pouvaient citer Frédéric dans des quotes en disant que le jeu avait été inspiré par Fred, etc., etc. Donc, ça s'est passé super bien avec, avec Awesome. Moi, je trouve que leur jeu, il est top, vraiment. De la même manière, ils ont tablé sur ce truc-là, sur ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire une techno hyper originale en noir et blanc avec des super rendus, etc. Par contre, Domi, il a juste oublié de le dire au monde. Tu vois, moi, je viens vous le dire, mais lui, il a oublié de le dire. C'est super con, quoi. Mais vraiment, enfin, malheureusement, c'est un truc qui a eu un énorme succès auprès de la presse. Ils ont un beau 18,5 sur Metacritic. C'est un jeu qui a été super encensé. C'est un jeu qui a été édité par Electronic Arts, qui leur a donné les moyens de faire de la promo. Ils ont été dans plein de salons, à la PAX, au machin, au truc. Au Awesome Studio, ils ont tout fait bon, et ils ont vendu 5000 pièces. Et je peux te dire qu'ils me foutent les boules tous les jours, parce que je me demande bien qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus qu'eux. Et ouais, c'est un super jeu, hein.
Bonsoir, je vous remercie pour votre présentation. Je trouve que le travail que vous avez fait de recherche et même d'innovation graphique est époustouflant. J'ai cru comprendre qu'en plus vous alliez potentiellement remettre dans la communauté les logiciels que vous avez créés à partir des logiciels que vous aviez utilisés à la base. Ma question, c'est plus sur l'aspect horreur du jeu. Puisqu'en fait il s'agit d'un jeu d'infiltration si j'ai bien compris et dernièrement j'avais essayé Alien Isolation qui sur les deux premières enfin les quelques premières heures du jeu marchait énormément sur l'aspect horreur. On se sentait chassé par l'alien et on était vraiment à la proie et on en ressentait une vraie peur jusqu'à l'intérieur de nos boyaux, mais au fur et à mesure du jeu ça, on développait des techniques et en fait à la fin c'était comme si on était à l'usine. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de peur et vous aviez dit que sur la longueur, l'horreur avait du mal à tenir sur un jeu d'infiltration et que peut-être vous alliez expliquer comment vous aviez fait, vous, pour répondre à ce problème-là. Et je voulais savoir, du coup, si vous pouviez en parler un peu plus.
On n'a pas fini, d'abord. Donc, on n'a pas trouvé la solution jusqu'au bout. Mais en fait, le fait, je pense que pour durer, c'est surprendre jusqu'au bout. Donc, équilibrer et trouver des surprises à donner aux joueurs jusqu'au niveau final. Un petit exemple bêta. Dans la démo que vous avez, là, je vais vous spoiler, mais je sais pas, la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Quand tu avances tout droit là, il y a une espèce de cadavre, tu avances tout droit, pac, tu tombes dans un piège, tu meurs. Ok, je n'avancerai plus jamais tout droit dans le noir. Maintenant, je vais faire attention. Et en fait... C'est comme ça qu'on va dresser notre joueur, à lui apprendre que rien n'est si évident que ça, quoi, et qu'il va falloir faire attention à tout. Si tu veux que le mec il ait peur d'avancer, de marcher, il suffit juste de lui montrer que le sol sur lequel il marche, il va se péter. Et en fait, c'est un truc que Fred a utilisé dans Alone in the Dark. Et en fait, déconstruire... En fait, la vraie peur dans la vie, tu l'as quand tu es dans une situation de perte de contrôle. Je perds le contrôle, je suis plus en mesure d'affronter la réalité que je reçois, donc j'ai peur. Et en fait, on essaie de faire la même chose dans les joueurs, c'est-à-dire pas leur faire perdre le contrôle du genre ma manette marche plus. Hein. C'est je perds le contrôle, j'ai plus assez de balles, je peux plus affronter le truc. Et c'est là que tu rentres dans des états de panique. Et c'est là que tu rentres. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire ça part du début. Tu crée de l'attention avec de la musique, une histoire, un environnement, un machin, hein. Mais le moment culminant, ça va être effectivement quand le gars va se retrouver complètement en perte de contrôle, genre je peux plus contrôler la situation, j'ai plus rien à faire. Et c'est là que la peur, elle arrive vraiment, quoi. Et beaucoup plus qu'avec des jumpscares ou quoi que ce soit, quoi. Et c'est là que tu peux la faire durer vraiment longtemps, parce que tant que tu lui redonnes pas le contrôle, c'est-à-dire que le mec, ça, il a trouvé une mitraillette, et ah, les zombies. Mais tant qu'il aura pas, tant qu'il a une balle, et qu'il sait que cette balle, c'est pour le bon zombie, pour lui libérer la sortie, et qu'il faut pas qu'il se rate, parce que sinon, il pourra pas sortir. Tu vois, c'est voilà.
Bonjour. Vous l'avez déjà peut-être dit au début, je ne sais pas parce que je suis arrivée un petit peu après, mais à partir du moment où vous avez eu l'idée, où vous avez voulu lancer tout ça, combien de temps ça a pris en tout pour le développement, enfin...
En fait, on avait oublié qu'il fallait faire une boîte avant. Donc ça a pris plus de temps que prévu. Non, au départ, honnêtement, on était parti dans « on va faire un jeu, youpi ». Mais bon, c'est l'erreur de plein... Enfin, c'est abominable quand je dis ça, parce que tu peux te dire « ok, ces gars, ils ont 25 ans, 30 ans de carrière, etc. C'est plus des newbies, ils vont pas faire d'erreur. » Et la première qu'on a commencé, c'est ça. C'est on s'est rencontré avec Fred. « Ouais, on va faire un jeu, sauver les enfants, etc. etc. Bien, on engage des programmeurs, des graphistes. Ouais, super, allez, on fait ça. » Et putain, ça veut dire monter une boîte, aller voir un banquier, etc. etc. Recruter 14 personnes qui bossent aujourd'hui sur le jeu et trouver ces 14 talents, ça, aussi, ça demande du temps. Donc en fait, on a commencé avec Frédéric depuis un an et demi. On bosse à plein temps depuis 6 mois, on va dire. Et en fait, les 14 personnes sont là depuis 3 mois. Donc on a encore 6-8 mois de prod, l'Argos. Et s'il y en a un qui va me poser la question que tous les journalistes nous posent, c'est quand ça sort, eh ben ça sortira quand ça sera prêt. Parce qu'on est de la race de créateurs qui décidons que... Merci. Voilà. Une autre question.
Bonjour. Je voulais savoir si vous pensiez que les jeux indés, ça serait, enfin, pour moi, je pense, c'est plus l'avenir que les triple A, où souvent le jeu triple A, on va jouer, disons, il y en a où ça va être durée de vie 10 heures, on l'a acheté 60€. Il y a des jeux indés où on va jouer beaucoup plus, durée de vie, des fois rejouabilité même beaucoup plus importante. Des fois, on pense, on s'est un petit peu fait pigeonner, des fois par les triple A où ils sortent un gros jeu, et des fois c'est vide en fait. Il se passe pas grand chose dedans. Et...
Déjà, le premier truc qui était rigolo avec World of Goo, c'est ça leur a mis une calotte. Ça, c'était déjà super rigolo. C'est le truc fait avec 100 000 $ qui se vend millions en millions d'exemplaires, alors que moi, Electronic Arts, je mets des millions et des millions et j'en manque des centaines. Donc, ça leur a mis vraiment une calotte au départ. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et puis en réalité, c'est juste un gros cycle naturel. Je veux dire, il reste du triple A et c'est mainstream. Et je pense que ça, tu l'enlèveras pas. Et c'est mass market et ça plaît à plein de gens. Maintenant, ça s'est regroupé entre, comme dans le cinéma, hein, ça s'est regroupé entre 5-6 gros acteurs économiques. Tu vois, au cinéma, t'as la Warner, etc. Et nous, on a Electronic Arts. Enfin, ça se regroupe. Il y a pas tant de gens qui sont capables de mettre 50 000 000 € dans un jeu, clairement. Et de l'autre côté, tu as tous les laissés pour compte, ceux qui n'ont pas 50 000 000 €, mais qui ont envie de faire des jeux quand même. Et les budgets varient. Hein. Il y en a qui ont des beaux budgets, il y en a qui ont 50 000 et qui arrivent très bien à faire des trucs. Mais après, si tu veux, effectivement, ce n'est pas tant l'argent qui va compter, c'est effectivement la créativité, l'originalité, aussi la communication, enfin plein d'autres choses. Mais en tout cas, des choses qui sont différentes du mainstream ou... Ce qui est important, c'est comment Call of Duty, c'est la taille de ton affiche. Hein. C'est c'est ça qui compte, quoi. Et effectivement, je pense que les deux vont cohabiter, que le jeu indé, c'est une tendance de fond depuis 3-4 ans et que c'est pas fini. Qu'il y aura un public qui sera séduit par ça. Comme aujourd'hui, il y a un public qui est séduit pour venir aux Utopiales, découvrir, on va dire, une littérature différente de Harlequin. Quoi. Voilà, c'est aussi de la littérature, mais c'est pas mainstream. Quoi. Et je pense que les deux vont continuer à cohabiter. Mais moi, j'aime bien les AAA aussi. Hein. Il y en a des cools.
Je voulais savoir si le jeu serait disponible que sur PC ou sur d'autres plateformes. Et dans quelle gamme de prix, à peu près ?
T'es journaliste ?
Non.
Non, pour l'instant, la réponse officielle, c'est PC Mac, Linux sur Steam. Et puis la réponse non officielle, c'est on va le faire sur tout, parce que quand tu commences un jeu comme ça, avec un budget comme ça, parce qu'effectivement, on est 14, donc c'est pas un petit jeu indé. Si on veut rentrer dans nos sous, ben, on va le maximiser, donc on va sortir sur toutes les plateformes au maximum, quoi. Et le prix, ben, je sais pas. Parce que non, honnêtement, tu peux pas décider un prix 9 mois à l'avance, quoi. Le marché, il est trop fluctuant. Aujourd'hui, le prix moyen d'un jeu comme ça va être 14,99 sur Steam. Dans 6 mois, ça va être 6,99. Tu vois, c'est on verra bien. Mais économise déjà.
Alors bonjour, et puis déjà merci pour cette conférence, et puis pour les jeux LBA et Alone in the Dark qui ont été voilà, mais
c'est pas moi.
Oui, mais voilà, c'est
mais
c'est,
je lui dirai merci.
Voilà. Et ma question, c'est comment est-ce que vous faites les scénarios de vos niveaux, parce que j'imagine qu'il y a des niveaux.
Alors ça, c'est moi par contre, cool.
Et comment vous faites vos scénarios, comment vous les organisez, et surtout est-ce que vous les testez, et comment vous testez l'effet d'aurore finalement avant que...
Là, tu as 40 questions en une. Hein.
Ah oui.
donc, tu as juste tâté le point faible, parce que finalement, la tech, c'était du bullshit. C'est monté 10 niveaux. Et ça, c'est bien compliqué. Donc, effectivement, ça passe par beaucoup. Enfin. En fait, au niveau du scénar, on va dire que c'est un jeu assez linéaire. On a une trame narrative sur l'ensemble de tous les niveaux, qui est en fait ce qui se passe à Gloomywood, la ville de Gloomywood, et pourquoi il y a autant de serial killers dans cette ville. C'est quand même louche, mais en fait, il y a une raison. Donc ça, c'est un peu la trame générale. Et après, il y a à l'intérieur de chaque niveau, effectivement, tu retrouves un serial killer assez typique, ceux qui ont vu notre expo d'art là-bas, enfin d'Artworks. On a vu, il y a un petit clown, il y a un chirurgien, il y a une grosse dame un peu maléfique, etc. Donc, ils ont chacun des caractéristiques très précises. Et en fait, ils ont aussi des environnements très précis. Donc, on verra le clown dans un cirque. Je vous dis pas un truc magique, là, je vous spoil pas trop. Et donc, on va être dans des environnements précis. Et en fait, une fois qu'on a posé ça, OK, on va faire un clown dans un cirque. Donc moi généralement je fais un gros truc, genre je veux qu'il passe par là, puis il y aura des lions, des machins, des trucs, donc j'aurai un bon l'histoire, la mini histoire du niveau. Là-dessus on a un level designer qui pose mes conneries dans des voilà en traçant des plans bien précis, puis c'est au carré en respectant la topologie obligatoire de cette représentation qu'on a. Après on fait une réunion avec Frédéric, hop on lui casse tout, game designer. Il refait une deuxième fois, hop, troisième fois, quatrième fois, ça va. Normalement, il met entre 2 et 3 mois à trouver un plan qu'on commence à coder, d'accord ? Après, on le code, et là, c'est le mec qui code qu'on commence à casser. Non, ça va pas, là, c'est... Donc, ça met très, très longtemps. Et dans tous les cas, là, je réponds à ta dernière question, on est incapable, nous, de mesurer le facteur de peur. Aujourd'hui, on baigne là-dedans, on se raconte des dégueulasseries à tous les coins de trucs, on est mort de rire parce qu'on découpe des gamins en morceaux et on baigne vraiment complètement là-dedans. On est incapable de mesurer ce facteur, donc en fait, on fait des playtests, c'est-à-dire on fait jouer des joueurs, on vous regarde quand vous jouez là. Tout à l'heure, j'étais très, très, très content d'en voir 2 ou 3 qui sursautaient au bon moment où j'attendais qu'ils sursautent, tu vois, hop, gagné, celui-là, c'est bon, c'est le bon sursaut au bon moment. Et voilà, mais honnêtement, nous, on est incapable de mesurer le facteur peur, hein, ça c'est clair. Quoi. Donc c'est au pif.
Et vous faites des sessions justement de playtest où c'est juste pendant ces conférences-là ou ces festivals?
Non, on fait des playtests en filmant les gens, en testant vraiment de manière intensive. Ouais.
Ok, merci.
Bon, merci. Merci beaucoup.